la main-d'œuvre. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce débat. Table ronde de collectionneurs en parallèle de l'exposition Old Dream qui se trouve en bas à main-d'œuvre, qui est une sélection de la collection Dorit et Serge Galluse. J'ai le plaisir d'accueillir Dorit et Serge Galluse, Michel Poitevin, José et Marc Jean Solin, Joseph Couli et Pierre Giorgio Pepe, qui est là. Pour commencer, deux premières questions qui me semblent être importantes du point de vue de vos collections. Existe-t-il un fil conducteur esthétique, formel ou conceptuel dans vos collections? Et pourquoi, pour vous, soutenir la scène émergente? Voilà, ce sont deux questions un petit peu flottantes sur lesquelles on peut revenir au fur et à mesure. Je donne peut-être premièrement la parole à Pierre Giorgio Pepe. Donc j'ai pu lire que dès le début, la collection s'est concentrée sur un art conceptuel à la forme rigoureuse tout en étant politique et intime. Il me semble que l'axe est assez précis, l'axe de la collection est assez précis, je me trompe peut-être. Mais voilà ma question. Qui est régulière, en tout cas dans mon travail aussi d'accompagnement des artistes, donc je la pose. Est-ce que la notion de risque ou d'erreur fait-elle ou font-elle partie de vos préoccupations? Est-ce que vous prenez des risques? L'erreur existe-t-elle? Voilà, donc déjà pour commencer.
Oui, comme vous disiez, on s'est concentré au début sur un art qui est assez formellement, assez conceptuel et rigoureux, mais... On s'est aussi concentré sur un art assez politique et intime en même temps, qui peut paraître un peu contradictoire, mais en fait pas trop. Si on connaît notre collection, on se rend compte que c'est assez intime, c'est assez introspectif, mais en même temps, pas au premier degré, mais c'est assez politique, donc tout ce qui est les difficultés d'aujourd'hui. Mais surtout, je crois que ce que caractérise la manière dont on collectionne, c'est la profondeur et l'engagement avec les artistes dans la durée. Donc il y a des collections, par exemple, qui préfèrent étaler sur différents artistes. Et donc là, il y a peut-être une prise de risque plus importante. Nous, on prend des risques, mais quand même, on veut toujours être là pour les artistes dans la durée. Donc on accompagne dès le début. Ce n'est pas forcément dès qu'ils sont jeunes. Hein, on a des artistes qu'on a rencontrés, ils sont plus mid-carrière, disons. Mais quand même, on les accompagne, on est toujours là dans la durée. Et c'est ça peut-être le vrai fil conducteur de notre collection. Donc prise de risque, oui, mais on doit vraiment, avant acquérir une œuvre, on se concentre vraiment sur l'artiste, sur le travail en général de l'artiste, comment l'œuvre dialogue avec le reste de la collection, comment le travail de l'artiste dialogue avec le reste de la collection, parce qu'en étant en engagement sur le long terme, on ne veut pas forcément se tromper dans ce sens-là. Oui. Donc,
D'accord.
Mais est-ce que dès le début, vous vous êtes dit que vous alliez faire une collection? Est-ce qu'au moment où vous avez acheté votre première œuvre, vous vous êtes dit, tiens, on va constituer une collection?
Pas immédiatement, mais assez rapidement.
Assez rapidement, ouais.
Et qu'est-ce qui vous a amené à collectionner, à acheter?
Qu'est-ce qu'on a amené? En fait, c'est une rencontre, c'est un couple qui se forme, et qui, on s'est établi à Paris, on était à l'étranger avant, et on est deux étrangers ici. Mon père était collectionneur d'art italien des années 70. Et Jordanis, c'était plutôt, il aimait la théorie, tout ce qui était le travail philosophique derrière l'art contemporain. Je crois que ces deux énergies ensemble ont fait déclencher cet événement. Voilà.
À partir de quel moment tu dis nous sommes collectionneurs?
Ça nous a pris beaucoup de temps. Pour moi, c'était plus facile pour Jordanis en venant d'un petit village. Une petite ville, elle me tuerait si j'étais petite, une petite ville au milieu de la Grèce, c'est un lieu assez de résistance pendant la guerre civile, tout le monde est assez très très à gauche, n'aime pas trop les bourgeois. Pour nous, c'était compliqué d'arriver à dire je suis collectionneur, mais je crois assez rapidement, on a compris que si on prend la responsabilité comme collectionneur, si on aide la création, si on aide les jeunes, si on aide tout ça, c'est aussi un travail assez militant.
Je crois qu'il y a deux choses dans votre question. La première, c'est que, avant de parler d'art, de quelque forme que ce soit, contemporain ou autre, on est naturellement collectionneur. Je sais, dans les gens avec qui j'ai parlé de cela, quand ils étaient jeunes, enfants, ils collectionnaient des photos de footballeurs ou des timbres-poste ou des choses comme ça. Il y a d'abord le besoin d'amasser, le besoin de regrouper, de classer, de trier. Il y a une très bonne étude qui a été faite par trois universitaires pour le ministère de la Culture qui montre bien cela, qui a été faite l'année dernière, si je me souviens. Et la deuxième chose, le mot collectionneur, c'est un mot qui a toujours existé, mais donc qu'on n'employait pas comme on l'emploie aujourd'hui d'une manière tarte à la crème il y a encore 15 ans. Le mot collectionneur est arrivé avec ce mouvement extraordinairement négatif de ce développement du marché où tout le monde achète tout et n'importe quoi et s'inscrit comme collectionneur. Je pense qu'en 1995, quand Suzanne Pagé organise, on était tous les deux, enfin l'été 96 hein, ou 93, dans cette exposition, personne ne se disait « je suis collectionneur ». Les gens, ils aimaient, ils montraient ce qu'ils aimaient. Je pense que le mot de la collection, c'est un mot qu'on a inventé pour que ça fasse bien dans les journaux.
Oui, souvent, c'est les autres qui vous disent que vous êtes collectionneur. C'est-à-dire qu'avant de le comprendre soi, soit c'est l'invitation dans les foires, donc des signes de... Voilà, de...
La meilleure définition, c'est celle d'Antoine de Galbert. On devient collectionneur quand on achète l'œuvre qu'on ne peut plus installer chez soi.
Ouais.
Voilà. Place, si tu as un studio de 15 mètres carrés, ça va plus vite que si tu as 400 mètres carrés. Hein. Mais c'est une bonne... c'est acheté au-delà de l'effet décoratif.
Tout à fait.
Oui, je crois que c'est une bonne définition.
Est-ce qu'on peut faire une petite rectification terminologique? Parce que il y a une différence, me semble-t-il, entre... le collectionneur est collectionniste. Le collectionniste étant un accumulateur sans discernement qui va engranger tout ce qui passe ou tout ce qu'il peut acquérir. Et ça, sans distinction de message implicite à l'œuvre et qui peut donner une certaine coloration, une certaine direction. Alors que, me semble-t-il, les collectionneurs dont vous êtes tous, ont un souci d'amélioration, un souci d'unicité de l'esprit dans lequel ils constituent leur ensemble. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Moi, toutes les collections nous intéressent dès lors qu'elles sont animées par une recherche que l'on retrouve comme un commun dénominateur entre la plupart des œuvres qui figurent dans l'espace où la collection est présentée.
Je pense que le mot décoratif est à proscrire dès la première œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Je pense qu'aucune œuvre n'est décorative dans l'esprit, je pense, de la plupart des gens qui sont là. C'est une œuvre qui fait sens. Ce qui n'est pas ni esthétique ni décoratif. C'est péjoratif. Est-ce que Matisse est décoratif? Non, je ne pense pas. Ça va bien au-delà.
Après, c'est vrai qu'on a. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la tendance dès le départ de vivre avec les œuvres quand j'ai commencé à les acheter. C'est-à-dire que la première tentation a été de l'accrocher au mur et on a le sentiment qu'il se passe quelque chose et qu'on. Singularise un peu son intérieur et par là on se singularise aussi un peu et après c'est vrai que la collection c'est quelque part aussi cette quête mais qui n'est pas très précise. C'est pour ça que je posais la question de la collection au départ, si c'était une volonté dès le départ de dire je vais faire une collection et que très tôt on peut se poser la question de l'orientation, de la ligne qu'on va lui donner mais je crois que pour la plupart des gens qui sont là elle s'est dessinée ou elle s'est définie avec le temps, c'est-à-dire que c'est essentiellement au rythme des rencontres. Alors, Anne parlait d'erreur, moi je ne parlerai pas d'erreur, mais en tout cas, il y a forcément un parcours qui se fait avec des moments heureux, des heures ou des choix qu'on assume peut-être moins quelques années plus tard, mais qui ont tous, je pense, été importants dans tous les choix qui auront été faits par la suite. Je crois qu'on sait tous effectivement un peu, on n'achète pas avec nos oreilles, on achète avec nos yeux, on va effectivement creuser le travail des artistes, ça peut prendre des années. Moi, ça a pu me prendre des années avant d'acheter une œuvre. Mais c'est vrai que le drame aujourd'hui, c'est qu'on recense le nombre de collectionneurs et ça devient une activité à part entière.
J'aime bien quand tu dis on va suivre des artistes. Le problème, c'est que, je ne sais pas, nous, on a été parmi les premiers collectionneurs de Pierre Wyck. Difficile à suivre financièrement, non.
Oui.
Gabriel Roscoe, on a suivi un certain temps, on s'est arrêté aussi. Sedan Afif, on essaie de continuer parce que comme c'est plus compliqué, ça reste possible. Et Tino Segal, bon, on peut encore parce qu'on ne peut pas dire autant il a une... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'achats, même s'il a une grande actualité. Ça, c'est une réalité, hein, cette dimension-là aussi, cette fulgurance.
C'est vrai que ça me faisait réagir parce que souvent... moi, on me demande, je pense à vous aussi, combien d'œuvres dans la collection, mais on ne demande pas combien d'artistes. Et je pense que ça pourrait être une bonne question, parce qu'on verrait effectivement quel est le nombre d'œuvres qu'on a sur un artiste. Et moi, je dois admettre effectivement qu'au début, j'étais un peu dans ce truc assez nouveau de me dire, tiens, j'achète une œuvre de tel artiste, la prochaine, ça va être d'un autre artiste, et la suivante d'un autre artiste. On est un peu comme un chien fou, quoi. On a envie de goûter à tout. Et au bout de quelques années, une fois qu'on a un peu exploré, effectivement, on revient, aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à découvrir, on revient sur les artistes avec lesquels on a une connexion qui est un peu plus forte et qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'accompagner, etc.
Nous, c'était exactement le contraire. Nous, on a commencé, je crois que les premières 3-4 œuvres, c'était des mêmes artistes.
D'accord.
Et
c'est ensuite que vous avez...
Et c'est ensuite qu'on s'est dit, il y a la possibilité d'imaginer des œuvres, pas forcément l'artiste dans leur entièreté, mais des œuvres qui peuvent accompagner la collection. Mais en même temps, donc ça c'est assez nouveau, sans forcément passer à, enfin, c'est un terme négatif, l'échantillonnage, non, oui, pas du tout, mais il peut y avoir des œuvres satellites qui vont bien dans le parcours, on voit quand même il y a 5 ou 6 artistes centraux, mais au début c'était plutôt obsessionnel, pour 2-3 artistes, les premières 4 ou 5 années c'était comme ça, donc il y a différentes manières de... Oui. D'arriver à ça.
Alors, pour nous, pour témoigner un petit peu de notre façon dont on a collectionné, en fait, Serge, tu disais pas décoratif, je ne sais pas, mais enfin, les quelques premières œuvres qu'on a achetées, c'était de la peinture, je ne dirais pas qu'elles étaient décoratives, mais enfin, bon, aujourd'hui, elles seraient considérées comme telles. Et puis, peut-être parce que la collection, c'est aussi fait de rencontres et d'échanges avec les galeristes, les artistes, etc. À un moment donné, il y a eu une prise de conscience. D'abord, peut-être qu'on était en train de créer quelque chose, hein, je ne sais pas. Et puis, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait quelque chose de profond dans l'art et qui venait nous interpeller, nous. Donc, il y a eu une réorientation au bout de, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, où là, on a commencé à comprendre qu'il se passait autre chose, qui nous dépassait. On a mis du temps, en fait, à réaliser, vous demandiez... Quand est-ce qu'on a considéré être collectionneur ? Différentes réponses. Et je crois que, effectivement, ce n'est qu'au bout d'un moment qu'on réalise, qu'on a réalisé, nous, en tous les cas, qu'il y avait un fil conducteur qui nous apparaissait et qui était dans quelque chose, voilà, d'une recherche un peu assez intime et personnelle.
Alors moi, justement, j'avais une interrogation qui concerne plusieurs d'entre vous, mais peut-être que je vous la pose à vous deux, Dorit et Serge Galluz. Vous êtes donc psychanalyste et médecin, donc vous regardez à travers les gens de manière différente, mais
on
il me semble...
Ici, hein.
Pardon,
on n'est pas les seuls ici.
Et voilà, donc les gens Solin aussi, par exemple, mais je sais, enfin, la question que je me posais, c'est est-ce que vos professions orientent peut-être aussi un peu vos collections? Qu'en pensez-vous ?
Pour ma part, je suis sûre. Parce que c'est parce que ma profession est à la fois l'origine et le résultat, si je puis dire, d'une certaine vision que j'ai du monde et une certaine façon de le lire et de le ressentir. Donc, moi, je dirais oui. Je ne dis pas que je lis tout à travers ce prisme et même que je le fais de manière consciente. Et des fois, c'est juste au niveau de la sensation, de l'impression que ça me donne. C'est la réflexion qui vient parfois après. Et, je crois que cette réflexion est très importante. Par exemple, au début de la collection, il arrivait qu'on soit plus dans l'impulsion, dans l'obsession et l'accumulation. Aujourd'hui, ça prend plus de temps, beaucoup plus de temps.
Moi, je poserais la question à l'envers. C'est-à-dire, puisque je suis radiologue, comment devient-on radiologue? Je dirais, on devient peut-être radiologue parce qu'on a l'habitude de regarder des tableaux. Quand on est adolescent, on fait des visites de musées avec des guides qui amènent à disséquer des tableaux. Et bien, cette dissection de tableaux, au moment de choisir une spécialité, j'ai eu envie de disséquer une radiographie. Donc je suis peut-être devenu radiologue à cause de l'art.
Et ce que je voulais rajouter moi aussi, c'est que par contre, l'art, l'œuvre des artistes m'enrichit énormément dans ma profession, au niveau des liens que je peux faire par rapport à des prises de conscience. Il m'arrive dans mon travail, sans en parler à mes patients, mais il m'arrive de faire des liens avec des choses que... Par exemple, l'avatar de Judith Deschamps peut me revenir à certains endroits, voilà, très intime et très profond, dont un patient ou une patiente peut me parler. Donc c'est un enrichissement mutuel, permanent. Il y a aujourd'hui, grâce à toutes les expositions d'art, etc., aussi des choses qui reviennent à travers les patients dans les analyses. Et ce sont les œuvres sont des objets de projection qui peuvent venir justement aider et alimenter.
Et on n'aime pas beaucoup quand la psychanalyse, on demande aux psychanalystes de venir parler des œuvres. Je dirais même qu'on regarde l'art brut, mais on est assez distancié, de même que les actionnistes viennois, tout ce qui touche à des... Ce qui nous intéresse le plus, c'est le verbe, la communication. Et par contre, je pense qu'on est profondément touché par notre quotidien, qui est dans une ville, Marseille est une ville paupérisée. Donc les médecins sont au secteur 1, donc on est dans une réalité financière qui fait qu'on voit la souffrance et donc on se rapprocherait assez, comme bien Jean-Jo, d'une réflexion qui est sociale, mais qui en même temps, j'allais dire, tout ce qu'on recherche, c'est que ça soit assez universel. Donc dans les jeunes artistes qui nous intéressent, on aime bien qu'ils s'étrent aussi ce qui se passe par rapport en ce moment à des termes comme la suspicion, des tas de questionnements qu'on a, mais qui vont se situer, je pense, un peu différemment.
Est-ce que notre profession a influencé la manière dont on se positionne en tant que collectionneur, hein? C'est ça la question. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, nous avons assez rapidement évacué le regard psychanalytique, parce que, pour tout vous dire, lorsqu'on était étudiant, on n'était pas encore connecté avec l'art conceptuel, mais on collectionnait des estampes, des gravures, des eaux-fortes de surréalistes. Tout simplement parce que, sensibilisés à la chose psychanalytique, on trouvait dans le surréalisme une sorte d'écho naturel entre l'interprétation et la production d'artistes, mais qui était de loin nos aînés, et on s'est rapidement rendu compte qu'on n'appartenait plus à cette époque-là. Et qu'en réalité, Jacques Lacan avait pris la suite de Freud, et que la prise en compte du langage qui, pour Lacan, était un modèle de structuration de l'inconscient, avait pour nous beaucoup plus de pertinence dans l'approche de ce que pouvait être l'art. Et plus tard encore, toutes les techniques venues de Palo Alto sur la communication et qui ont permis de mettre en place l'analyse systémique, c'est-à-dire l'analyse de ce qui se passe entre les individus en temps réel, c'est une vision transversale, c'est une vision synchronique, alors que la psychanalyse est diachronique, nous avons trouvé là dans ce jeu d'interaction, véritablement des réponses à l'actualité de l'art tel que nous l'apprécions. Alors l'influence, oui, mais pas comme on peut le penser au départ, comme une interprétation. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire là, monsieur, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Et ma réponse est toujours à côté, parce que c'est la grille de lecture psychanalytique n'est pas notre fait.
Très brièvement, pour Iordanis, pour moi, un peu moins en tant que juriste et professionnel de l'éthique, mais Iordanis, qui est un théoricien en théorie quantique, je crois que lui, il utilise beaucoup, il est beaucoup influencé sur ça, par ça, surtout pour ce qui est le regard de tout ce qui est la division binaire ou les normes. La physique quantique, en tout cas la théorie quantique, nous aide un peu à sécouer tout cela. Et donc je crois qu'il utilise énormément ça et il partage beaucoup avec moi cette approche. Donc en fait, oui, je crois que son œil, travail, ouais. Oui, est quand même, peut-être pas consciemment. Mais...
Au sujet de l'exposition de votre collection, exposez-vous volontiers votre collection ? Si vous prêtez des œuvres, rendez-vous cette activité publique ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
Le premier élément qui m'a marqué dans le phénomène de l'exposition, ça a été passion privée. Je le répète souvent, parce que j'imaginais pas qu'il y avait des collectionneurs qui existaient. Moi, Paris, je le connaissais parce que je venais voir des clients, mais c'était tout. Je venais voir des musées, mais sans véritablement aller au-delà de cela. Mes passions privées m'ont montré qu'on pouvait exposer des œuvres. Et quand j'ai rencontré Gilles Fuchs et qu'on a commencé à construire la DIAF, on a monté le prix Marcel Duchamp, et puis il y avait un élément qui manquait, c'est que les gens qui venaient donner une cotisation à la DIAF, ils avaient relativement peu d'activité dans cette association. Et donc en 2004, j'ai proposé à Gilles de faire une exposition. Je l'ai faite à Tourcoing, parce qu'à Tourcoing, j'habite Lille, je connais les conservateurs, et Evelyne Allemand a accepté. Et ensuite, nous avons montré, j'ai montré, certains d'entre vous qui sont présents l'ont fait, comme vous l'avez dit, en 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, et en 2015, certains d'entre vous, et on était presque tous, à Poitiers, quand j'ai fait une exposition qui s'appelait Engagement, qui construisait d'une autre façon. Donc moi, le sujet, ce n'était pas de montrer mes œuvres. À la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était de montrer des œuvres. C'était ça qui était le chemin. Alors, à la Sécu, bon, c'était sympathique. Je l'ai fait parce que je connaissais le directeur qui me l'a demandé. Et Thierry Sommier, devant exposer quelqu'un et lui ayant fait faux bond, je lui ai prêté une vingtaine d'œuvres l'été dernier. Mais je n'ai pas une vocation première à me projeter, à aller dire il faut que je fasse comme le Tour de France, des étapes de partout pour montrer ce que j'ai acheté.
Mentalement d'un espace où vous accrochez vos pièces, et si la multiplication des invitations faites aux collectionneurs pour exposer dans des espaces publics, donc le dépassement dans l'imaginaire ou on l'imagine dans l'espace domestique, ce passage-là l'avait fait évoluer. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous disposent entre guillemets de cet espace mental, si vous pouvez le décrire et nous en parler, puis peut-être de nous parler s'il existe, peut-être je fantasme complètement, de voir s'il a évolué ou comment il évolue avec le temps.
C'est quoi l'espace mental ?
Parce, par exemple, un artiste, il peut imaginer disposer ses pièces dans un espace d'exposition qui est inexistant, et quand il fabrique ses pièces, il fait des accrochages complètement virtuels.
Mais en fait, c'est nécessairement le cas à partir du moment où on n'a plus de place tout accroché sur les murs, ce qui pour moi est arrivé assez vite. Donc de toute façon, on vit effectivement avec une histoire ou un lien entre les œuvres. Alors c'est peut-être pas un espace tel qu'on l'entend, tu vois, tridimensionnel, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu, certaines œuvres on appelle d'autres, et il y a des liens de parenté entre certaines œuvres qui peuvent être liés à des histoires ou à des épisodes. si ça répond à ta question. Mais oui, je pourrais vivre sans œuvre, enfin sans aucune œuvre chez moi. Et pourtant, elle continue effectivement à m'habiter et je continue effectivement à en avoir connaissance et à les associer en certaines circonstances. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là. Et après, si les expositions, les sollicitations viennent troubler cette organisation, non, parce que c'est pas vraiment une organisation et c'est pas vraiment. Je crois que je garde une vie intérieure qui est beaucoup moins riche que celle d'un artiste, malgré tous mes efforts.
Toutes les œuvres ne peuvent pas s'accrocher mentalement. Certaines s'y prêtent, mais d'autres ont besoin d'une confrontation physique avec le regardeur. Donc, voilà, il faut peut-être un bon espace mental, mais il faut peut-être aussi une salle White Cube. Hein.
Oui, mais par exemple, l'achat d'une œuvre, enfin, ce qui me concerne, je ne sais pas d'autres, mais pour moi, n'a pas besoin d'être accroché, d'être vu. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai acquises, je ne les ai jamais déballées. Elles sont allées directement au stockage. Je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, je l'ai vu, évidemment.
Comme dans une vraie collection publique.
Quoi ?
Comme dans une vraie collection publique.
Ah, j'en sais rien. elle est restée emballée, et surtout, je ne la déballe pas parce qu'elle est bien emballée, alors que moi, je ne saurais pas le faire aussi bien, et que. On la déballe quand je la déballe. Enfin, elle est déballée quand je la prête. Mais j'éprouve pas le besoin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'éprouve pas le besoin physique de la voir, de la regarder, de.
De la voir quand tu l'écris.
De la voir, si, parce que je l'ai mise sur un truc, et puis si on me la vole, je serai embêté. Et donc je serai. Hein? Ah, les psychanalystes, il faut se méfier, les psychiatres.
De toute façon, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est que nous, quand on a eu un espace beaucoup plus grand, comme on veut toujours accrocher de façon assez aérée et que ça ait du sens, en fait, ça n'a pas du tout résolu le problème du storage et autres. Et curieusement, c'est le moment depuis où on a le plus acheté de dématérialisation et de performance. Donc, on s'est plutôt éloigné de la possession matérielle.
Moi, j'avais une question pour peut-être Joseph Couly. Tu as exposé ta collection à main d'œuvre en 2013, il me semble assez tôt. Oui. Donc c'était une première présentation de la collection. Est-ce que cet événement, et peut-être même le catalogue qui a suivi, a pu modifier ton approche de la collection et du fait de collectionner? Est-ce que ça t'a permis d'avoir déjà peut-être d'imaginer peut-être un fil conducteur qui n'était pas forcément conscient au départ ou
Alors pas forcément de l'imaginer, mais de le percevoir, parce que effectivement j'ai commencé à collectionner en 2006, peu de temps avant Pierre Joyeur-Denis, et j'étais invité par Main d'œuvre qui voulait voilà justement montrer une collection qu'on n'avait pas l'habitude de voir, on va dire une jeune collection, et elle était jeune par tous les aspects, c'est-à-dire que j'étais moi-même jeune, et la collection avait moins de 10 ans, donc elle était encore pas tout à fait mûre, un peu verte quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait le choix, contrairement à ce que vous avez pu faire avec Dorit et Serge, de faire une sélection d'œuvres, on avait fait le choix de tout montrer. Donc on avait montré les 55 œuvres qui constituaient la collection à ce moment-là, et on les a montrées vraiment dans l'ordre d'acquisition, c'est-à-dire que exactement comme une timeline. Et ce qui a été très étonnant, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu toutes les œuvres ensemble, parce qu'il y en avait beaucoup. Que j'avais pas vu, que j'avais récupéré pour l'occasion ou que j'avais pas vu depuis un moment. Quand je me suis retrouvé au milieu de la salle en bas, au milieu de toutes les œuvres, j'étais évidemment très ému, mais surtout j'ai compris effectivement ce que j'avais pu faire. Et ce sont les gens qui visitaient l'exposition qui m'en ont moi-même parlé, c'est-à-dire qui ont commencé à me révéler, à mettre des mots sur des choses que j'avais pu faire sans même m'en apercevoir, de façon très inconsciente. Et notamment des collègues de travail qui, voyant la collection, m'ont très spontanément dit qu'ils ne me verraient plus de la même manière. C'est-à-dire que, en revanche, c'est un acte qui est très intime, c'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment d'être à poil au milieu de la pièce et d'avoir tout montré. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre qui trône au-dessus de mon lit, il y a celle qui est dans mes toilettes, il y a celle qui. Et tout était là. Donc tout avait été déballé pour l'occasion. Et j'ai eu un peu peur, effectivement, avant l'ouverture, comme c'était. Avant ça, j'avais eu l'occasion de prêter des œuvres pour des expositions quand même, donc il y avait eu différentes étapes. Et là, c'était la première fois, effectivement, que je montrais tout. En revanche, ça a peut-être précisé par la suite des envies de revoir des artistes qui manquaient. C'est-à-dire que j'ai vu à cette occasion-là qu'il y a des années où je n'avais pas acheté beaucoup d'œuvres, que j'avais pu acheter des ensembles par moment, ou que certains artistes revenaient tous les 2-3 ans, et que ça voulait peut-être dire quelque chose. Donc ça m'a permis effectivement de me pencher un peu sur, sur cette démarche, qui à un moment commençait à constituer un ensemble, et peut-être définissait un début. Alors je vais dire, le mot responsabilité, c'est un grand mot, mais que voilà, je ne pouvais plus forcément avoir cette espèce de démarche de chien fou que j'avais au début, d'un peu acheter tout ce que je découvrais, toutes les œuvres qui pouvaient résonner en moi, et que j'ai eu une démarche qui était peut-être plus réfléchie, et aussi de plus en plus immatériel, c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter aussi, la vidéo est venue tardivement, on commence par acheter des objets quand même, parce qu'on parle d'accrocher et de vivre avec les œuvres, on commence par acheter des objets. La vidéo est venue plus tard. Là, en ce moment, voilà, j'achète des pièces sonores. J'aimerais bien posséder de la performance aussi. Voilà, je me pose la question, mais on ne le commande pas. Mais j'aime bien cette idée, en tout cas, de posséder de l'immatériel. Et ça résout aussi les questions d'espace, c'est sûr. Assez vite.
Je trouve vos questions très intéressantes, entre gens bien élevés. Mais moi, j'aime les questions qui dérangent un peu.
Oui, super.
Et je crois qu'il... Il faut demander, est-ce que vous avez des œuvres dont vous n'êtes pas très fier de les avoir acquises ? Les premières œuvres, par exemple, est-ce que vous êtes promené à la place du tertre ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des erreurs que vous planquez dans les placards et qui sont invendables ? Voilà. Moi, c'est des questions qui m'intéressent, ça.
Le fait que ce soit invendable, c'est peut-être une qualité pour elle.
En tout cas, Joseph, en ayant montré tout ce qu'il avait au début, là, on peut nous-mêmes voir, non ?
Ouais, exactement.
Tu disais d'être mis à nu avec les erreurs aussi, non ?
Ouais. Bah, erreur, c'est...
Pour le coup, c'était un risque. C'est
potentiellement, c'est un terme, je ne sais pas s'il y en avait.
Ouais, que j'aurais du mal à utiliser parce que... j'arrête de m'obliger la parole, mais effectivement, parce qu'on m'a posé la question au moment de main d'œuvre, et je pense que tous les choix ont été déterminants pour les suivants. C'est-à-dire qu'il y a probablement des choix que je ne referai pas, les choix du début. Voilà, peut-être qu'à un moment, je me dis, bah, tiens, cette œuvre, si je devais l'acheter aujourd'hui, oui, je l'achèterais peut-être pas, j'en achèterais une autre. Mais elle a été déterminante, la deuxième a été déterminante pour la cinquième, qui a été déterminante pour la treizième, qui a été déterminante pour... Donc c'est un parcours, et le parcours, il n'est pas linéaire, il est un peu chaotique, parce que... Fort heureusement, ce n'est pas un parcours réfléchi, c'est-à-dire que je n'ai pas été conseillé. Comme l'a dit Michel, moi aussi je suis provincial. Quand il a commencé à collectionner, qu'il est arrivé à Passion Privée, il s'est dit « tiens, il y a d'autres collectionneurs ». Au début, moi je me sentais un peu seul, je ne connaissais pas du tout la DIAF. Je crois que la première table ronde qu'on a faite ici m'a permis de rencontrer d'autres collectionneurs que je ne connaissais pas encore. Donc c'est aussi à ces occasions-là qu'on rencontre des gens qui ont la même pathologie que nous. Mais c'est vrai que je ne parlerai pas d'erreur. Il n'y a pas de choix honteux. Après, il y a des choix qu'on ne referait pas, je pense. Enfin, en tout cas, me concernant, c'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi on est parti.
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on est en train de faire après quelques années ?
On voit que
ça donnerait beaucoup de courage à d'autres.
Bien sûr, probablement.
Mais tout à l'heure, au démarrage, il y avait une question. Qu'est-ce qui articule ? Quelle est la ligne de votre collection ? Et moi, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu, c'est moi. C'est moi, puisque moi, j'ai choisi chaque fois, pendant 40 ans, c'est moi qui choisissais. Des fois, avec une interférence de quelqu'un. Maintenant, mon épouse est de plus en plus présente, mais je suis quand même prépondérant. Et moi, je le pense. Mais donc, toutes les choses, même les plus immondes, c'est moi qui les ai choisies. Donc, elles ont quand même quelque chose de... qui ont été intéressants.
J'ai le sentiment, mais ça c'est à force de visiter des collections, j'ai le sentiment qu'il y a, pour résumer hein, grossièrement, qu'il y a quand même toujours à peu près deux aspects ou deux niveaux dans les collections. Il y a une dimension toujours très universelle, et je crois qu'on est tous en quête d'œuvres qui font écho à la société à l'époque et qui ont quelque chose de très universel, et une partie effectivement un peu plus intime, plus personnelle, un peu plus... Voilà. Parfois elles se rencontrent, et là c'est vraiment les œuvres avec lesquelles on résonne particulièrement. Et parfois, enfin, moi j'ai le sentiment là, mais c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de collections, et ce que j'ai le sentiment c'est d'avoir chez moi. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai dans ma chambre à coucher, et il y a ce que j'ai dans mon séjour.
On est parfois gêné devant certaines œuvres qu'on a achetées. Je dirais même, je prendrais le contre-pied de ce que tu as dit. Si aujourd'hui je suis gêné par une œuvre, je vais m'y intéresser. C'est-à-dire pourquoi elle me gêne. À contre-pied, c'est-à-dire, d'autres œuvres me paraissent trop faciles, donc l'artiste qui a créé ça n'a aucun intérêt.
Non, mais des œuvres du début de la collection.
Non, mais c'est bon. Aujourd'hui, je parle du regard, de la relation à l'œuvre. Si une œuvre me dérange aujourd'hui et on vient d'acheter une œuvre qui me dérangeait, que Dorit me dit, il faut qu'on s'intéresse à ça. Je dis, c'est pas possible de s'intéresser à ça. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'y ai beaucoup pensé. Et aujourd'hui, je me dis, mais bien entendu, c'est intéressant. Et je me suis intéressé parce qu'elle me dérangeait.
Bien sûr, mais je pense que le dérangement, on est tous un peu dérangés.
Oui, c'est-à-dire vraiment sentir sa zone de confort quand même.
Et oui, mais c'est ça.
On ne ferait pas ça sinon.
Exactement.
En parlant de ce que Joseph disait, montrer la collection, ça s'intervient nu. Avec Yordanis, on a beaucoup réfléchi. En fait, on n'a pas vraiment encore montré, peut-être tout le monde ici, notre collection, des moments plus restreints. Et on le fera un jour, sans doute, j'espère. Mais je crois qu'après, c'est aussi une question de choix, de priorité. Par exemple, nous avons prioritisé la création d'autres événements, de projets. Vous avez mentionné avant notre résidence en Grèce. C'est là. Donc, on a choisi de manière différente pour le moment comme priorité, sans exclure forcément de revenir sur ce projet après. Et aussi, il y a de la peur, mais aussi il y a du respect pour les œuvres, pour les artistes. Est-ce qu'on a un corpus assez important pour le montrer? C'est toutes des questions aussi qu'on se pose par rapport à soi-même, par rapport aussi au respect aux œuvres, au respect aux artistes, pour être bien montré, bien entouré dans des espaces. Voilà, après, il ne faut pas trop se laisser traîner dans cela, parce que sinon on ne montrera jamais par la peur. Mais c'est aussi une peur qui montre une fragilité. Donc pour le moment, nous, on a une autre stratégie, disons, une autre priorité plutôt que stratégie. Et c'est là d'accompagner les artistes, d'être là, de faire des petits événements, et tout ça. Mais voilà, juste une autre manière
pour témoigner et revenir à la question de Fabien de 2 minutes, à propos de l'exposition à main d'œuvre. Moi, ça a été pareil quand Anne me l'a proposé. Nous, c'était la première fois qu'on exposait une partie de notre collection. Et effectivement, j'ai réfléchi plusieurs mois avant de dire oui, Anne le sait, parce que j'avais l'impression de me mettre à nu. Et que le regard des autres, c'était la première fois que je le confrontais vraiment, à part quelques amis qui ont pu venir à la maison. Mais c'est la première fois que je le confrontais. Donc, c'était assumer mes choix, assumer les critiques que j'imaginais, parce que j'en ai parlé à Anne, le monde de l'art est parfois très difficile, très dur, celui des collectionneurs aussi, et pas que. Et tout ça, effectivement, ça m'a questionnée avant de d'assumer et de me dire, et puis après tout, j'y vais. Et effectivement, quand je suis rentrée dans la salle et que j'ai vu la scénographie que Anne avait faite, ça m'a impressionné parce que ça n'a rien à voir avec un espace privé. Rien à voir. Ça prend une autre dimension qu'on n'imaginait pas, que je n'imaginais pas en tous les cas. Et que dans mon chemin de collectionneuse, effectivement, peut-être plus ça va, moins c'est le cas, comme disait Michel, mais au départ, il y avait une interrogation sur ce que les autres allaient penser. Serge, ses parents étaient collectionneurs, on venait de milieux où on collectionnait plutôt de la peinture, des choses assez classiques. Quand on s'est mis à acheter déjà rien qu'au départ quelques œuvres de peinture abstraite, on nous disait, un enfant peut faire ça. Donc on ne comprenait pas, mais je dirais qu'on avait une trentaine d'années et que ça faisait partie aussi du chemin de différenciation avec notre milieu, peut-être de chercher une voie personnelle, et que après, quand on s'est mis à s'intéresser par exemple à Philippe Thomas ou après avoir acheté un peu de peinture, le regard des autres était moins important. On passait un cap là, qui était différent. On avait déjà entre guillemets choqué. C'était plus le problème à 30 ans, enfin par rapport à nos familles. On avait déjà affirmer quelque chose et assumer. Donc effectivement, mais régulièrement, la question se pose. Moi, par exemple, en tant que collectionneuse aujourd'hui, j'ai pu m'intéresser à Philippe Thomas, etc., dans les années 90. Il m'arrive aujourd'hui d'être très travaillé par des œuvres beaucoup plus, beaucoup plus dans la matière. Et je peux vous dire que ça me travaille. Hein. Ça me travaille vraiment par rapport à la collection. Par rapport, si Philippe Thomas était vivant et qu'il voit que, enfin, je sais pas, même le regard par rapport à l'artiste, un autre artiste qui est là initialement dans la collection. Mais ce travail est passionnant parce que c'est, pour moi, c'est quelque chose qui me travaille à l'intérieur de l'être que je suis, entre eux, quelque chose de l'ordre du langage, de l'ordre de la matière, de l'ordre. C'est pour ça aussi que, par exemple, on a.
Vous avez démarré très fort avec Philippe Thomas.
Au bout de. Oui.
D'accord.
Oui, enfin, aujourd'hui, on s'en rend compte.
Vous confiez au sublime. Pour un petit histoire, savez-vous que Philippe Thomas, avant de mourir, a exprimé des vœux, c'est d'incinérer et de voir ses. Enfin, de savoir à l'avance que ses cendres seraient dispersées dans la rade de Marseille. Ah. Alors, on a toujours une pensée un peu émue pour lui.